France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
De l'humus à la cime des arbres, un monde d'intelligence invisible. Quand les sols et les arbres parlent aux oreilles de chercheurs, ce sont toutes les connexions et les intelligences insoupçonnées de l'écosystème forestier qui se donnent à voir et à comprendre. Encore faut-il être prêt à entrer en dialogue avec ce vivant non humain et à décoder l'entrelacement de tous ces réseaux qui s'étirent sur des kilomètres, sous terre et dans les airs. En compagnie de nos deux invités et à l'occasion de la fête de la science, partons à la découverte de ce monde interconnecté où le végétal et ses auxiliaires regorgent de trésors de communication pour vivre, pour survivre, pour se défendre et s'adapter. Bonjour Francis Martin.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, enfin, tout simplement l'INRAE. Voilà. Et l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des arbres. Merci d'être avec nous. J'ai envie de mentionner deux de vos livres, mais il y en a d'autres. Vous êtes auteur donc, notamment de La forêt hyper connectée. Et puis on vous doit aussi le très beau livre Arbres secrets de géants, les deux édités à la Salamandre. On pourrait aussi mentionner L'Arbre Monde, paru chez Belin. Que du bonheur pour les lecteurs. Et avec nous également Gaspard Koenig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et essayiste français, auteur notamment, là aussi, qualifient tous les deux, notamment de deux livres qui ont séduit le public, Humus, qui a reçu le prix Interallié et le prix Jean Giono, et puis Agrophilosophie, et les deux sont parus aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue à tous les deux, et bienvenue bien sûr à nos deux auditeurs dans De Cause à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours, et plus que jamais, en partenariat avec le journal Le Monde. L'émission est toujours et plus que jamais préparée par Célestine Babinet, avec à la collaboration Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Christine Anzano et sans oublier Pierre Pinault de l'INA. L'émission toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique, aujourd'hui, Timothée Hubert. Et nous y sommes avec vous. Nous allons marcher pendant une heure de cette manière-là, en forêt, dans les sous-bois. Et pour reprendre vos mots, Francis Martin, même si les mondes sauvages rétrécissent et s'appauvrissent et que les forêts vierges ont quasiment disparu, il est encore possible de percevoir le chant du vivant dans nos forêts domestiquées. C'est toujours un bonheur.
C'est toujours un bonheur. Et c'est vraiment la belle période. L'automne, pour moi, est l'une des plus belle saison pour aller s'enforester, pour aller marcher, randonner en forêt. Les paysages sont extraordinaires. Et là, les géants que sont les arbres expriment toute leur beauté. Et puis, évidemment, c'est le moment des champignons.
Donc, Alors, nous allons parler
sur les champignons depuis un certain nombre d'années. C'est extraordinaire.
C'est le merveilleux pour les cueilleurs. Nous allons en parler, bien sûr, dans cette émission des champignons. Mais je vous propose, en tout début, bien sûr, de donner à comprendre aux auditeurs pourquoi, avec vos deux professions indifférentes, vous retrouvez avec cette même passion aussi pour les forêts, les sols. C'est une relation, Francis Martin, avec ce vivant végétal qui s'est nouée depuis quand et de quelle façon ?
C'est toujours difficile à retracer son histoire. On a tendance, en plus, quand on répond aux questions des journalistes, d'enjoliver un petit peu. Donc, je pourrais vous dire que
ça remonte
à très loin. Quand j'étais gamin, avec mon père et mes oncles, nous allions passer l'été dans les vastes forêts qui sont à l'est de Nancy, une région entre Nancy et Sarrebourg qui s'appelle la région des Larcs, où il y a vraiment de très belles forêts domaniales et où nous allions cueillir les champignons. Donc, j'ai souvenir de journées entières passées à ramasser les girolles, qu'on appelle les jaunotes en Lorraine. Probablement que ça a dû imprégner ma personnalité. Et puis, bien des années après, quand je me suis retrouvé à décider à l'université vers quel type de filière aller, vers la biologie animale ou la biologie végétale, j'ai opté pour la biologie végétale. Petit à petit, comme ça, j'ai été amené à travailler sur ces interrelations, ces interactions entre les plantes que sont les arbres, et puis le monde des champignons. Donc oui, ça remonte assez loin quand même.
Et une carrière à arpenter les forêts, du littoral méditerranéen à la taïga arctique et à travers le monde.
Ah ben c'est la chance, le privilège d'être chercheur, scientifique, parce qu'on peut prendre une carte du monde et puis rechercher les régions les plus isolées, les vallées, je disais tout à l'heure à Gaspard, les vallées du les hautes vallées tibétaines, et décider d'aller étudier ces mondes encore relativement sauvages. Essayer de découvrir, d'inventorier, de recenser leur biodiversité.
Gaspard Koenig, de votre côté, vos premiers pas en sciences agronomiques, hein, si je me permets cette expression, qu'est-ce qui l'a déclenché ?
C'est d'abord des envies romanesques et c'est aussi l'envie de comprendre ou de pouvoir nommer ce que je vois et ce que je ressens, parce que finalement je me promène en forêt depuis très longtemps, mais je me suis aperçu que j'étais incapable de nommer plus de 2 essences d'arbres, et donc en fait on se promène dans un endroit qu'on trouve harmonieux, odorifique, chatoyant, chantant, et c'est déjà très très bien d'avoir ce rapport poétique au monde. Mais quand on ne sait pas le décrypter, on perd quand même quelque chose, parce que finalement, on ne sait pas si cette forêt elle est là depuis 20 ans ou depuis 1000 ans, si c'est bien normal que ces arbres, ça soit tous les mêmes, parce qu'ils sont cultivés en monoculture ou pas, si le fait qu'il n'y ait pas de sous-bois, c'est bien, c'est pas bien. Et donc, j'ai vraiment appris de manière beaucoup plus, scolaire et autodidacte à comprendre ce que je vois. Et en utilisant aussi les outils modernes, par exemple PlanteNet est une application qui permet alors c'est de l'intelligence artificielle, mais vraiment vertueuse, et qui permet de prendre une photo de feuilles et d'avoir, avec vraiment une fiabilité extrême, surtout pour les essences simples, le nom de l'arbre. Et petit à petit, on commence à différencier un arbre pionnier, une canopée, et du coup, ça développe le regard et ça fait qu'on on peut plus s'ennuyer, en fait, parce que sur quelques mètres, au lieu de voir une sorte de vague rideau vert, tout d'un coup, on arrive à différencier. C'est-à-dire, on arrive à rentrer dans quelque chose de plus granulaire. Et plus on connaît, en fait, plus on peut se divertir sur un tout petit territoire. J'avais lu le livre d'un de vos collègues qui avait fait un mandala en forêt, qui avait pris quelques mètres carrés, quelques mètres carrés ou un mètre carré, je crois, de sol, et qui était resté, enfin, qui était revenu là pendant un an, et qui décrit l'évolution de ce mètre carré sur un an. Voilà, et pour ça, il faut vraiment, il faut apprendre à voir, au-delà du bonheur immédiat que chacun peut ressentir.
Et à s'immerger.
Je crois que c'est vraiment important de pouvoir nommer le monde. Parce qu'il y a parmi nos concitoyens, il y a vraiment une cécité botanique. Donc, en fait, un promeneur, un citadin qui se promène dans une forêt, il voit, comme Gaspard le disait, une atmosphère vert émeraude. Il a bien du mal à distinguer les différents arbres, les différentes espèces, les différents arbustes. Et une fois qu'on apprend à distinguer, à discriminer ces différentes espèces, c'est extraordinaire. On découvre un monde, mais fabuleux.
Et du coup, on ne protège bien que ce que l'on connaît.
En plus, oui.
En plus. Alors, peut-on parler justement d'intelligence connectée par rapport à ces univers ? On va parler forêt, on va parler sous-bois, forêt vivante aussi. Vous allez pouvoir nous dire, Francis Martin, ce qu'on met comme définition derrière une forêt vivante avec un enchevêtrement de liens, d'interactions pour le meilleur et pour le pire. Donc, on peut véritablement parler d'intelligence ?
Tout dépend de la définition qu'on va donner à intelligence. Évidemment, les arbres n'ont pas d'intelligence, en tout cas, notre connaissance actuelle, n'ont pas d'intelligence cognitive, d'intelligence réflexive, qui anime les humains, beaucoup de mammifères. Les arbres sont intelligents dans la mesure où ils sont capables de percevoir le monde. Ils ont une multitude de capteurs, ils ont des sens qui sont analogues aux nôtres, donc ils sont capables de percevoir le monde, et en percevant ce monde, ils peuvent réagir à ce monde. C'est là où se trouve l'intelligence des plantes. Elles ont une incroyable capacité de s'adapter à notre biosphère, à notre monde. Et donc pour ça, moi je considère qu'elles sont intelligentes.
Et donc des racines à la cime, il y a des associations symbiotiques que vous avez relevées. Vous avez passé votre carrière à travailler sur ces
progressivement, on est passé de l'idée que les plantes et les arbres ne vivaient jamais seules, comme dit Marc-André Solos. Elles sont toutes en association. Au départ, on pensait essentiellement à des champignons ou à certaines bactéries fixatrices d'azote. Mais parlons des champignons symbiotiques, capables de former sur les petites racines, sur les radicelles, des interactions symbiotiques, c'est-à-dire vraiment la racine est transformée, elle devient une chimère composée de tissus végétaux et de tissus fongiques, et cette nouvelle structure va permettre à l'arbre de mieux se comporter, de mieux se nourrir. Donc ça, c'est un premier type. types d'interactions. On a travaillé sur ces interactions dites mycorhiziennes. Alors, mycorhize, cette petite racine transformée, myco-champignon, rhize, rhiza, racine. Donc, c'est une racine champignon. Et puis, petit à petit, on a découvert que, en plus de ces champignons, il existait une multitude d'autres organismes, de micro-organismes, bactéries, microfaunes, virus, qui vivaient aussi en interaction avec la plante et qui étaient sous l'influence de la racine de l'arbre, dans la sphère qu'on appelle la rhizosphère. Et là, donc, on s'est, petit à petit, les scientifiques ont commencé à s'interroger sur quels sont les mécanismes qui permettent à la plante de sélectionner dans cette tisane du sol, où il y a des trillions, des milliards de milliards de micro-organismes, comment l'arbre fait-il pour sélectionner, filtrer, et se faire accompagner par une microflore qui va lui apporter des bienfaits. Et donc, on a découvert qu'effectivement, il y avait des signaux, qu'il y avait un dialogue. Alors, pas un dialogue avec un langage que l'on connaît, en tout cas, on n'est pas capable de le décrypter aujourd'hui.
Mais des coopérations.
Mais les racines sont capables de parler à ce monde microbien, à cette microfaune qui est dans le sol, par le biais de composés chimiques, de composés volatiles, peut-être même des flux électriques. Donc là, on a découvert une extraordinaire polyphonie entre tous ces micro-organismes influencés par la plante. Et une fois que l'arbre va avoir sélectionné son cortège de micro-organismes bénéfiques, eh bien, un dialogue va s'établir entre les deux. Ça, c'est pour le système racinaire. On pourra voir pour les feuilles ensuite.
Nous allons ausculter, si je peux me permettre, vraiment la forêt, les sous-bois, mais surtout donner envie aussi d'en savoir un peu plus et de arpenter ces milieux, d'avoir le regard porté sur ces écosystèmes. Donc vous nous parlez de ces flux par lesquels transite un flux constant, en fait, de sucre, d'aliments, de minéraux. Vous parlez même d'un commerce équitable, finalement, entre arbres et champignons.
C'est vrai qu'on doit être toujours prudent quand on est scientifique, éviter les termes trop anthropomorphiques. Après, quand on a envie de faire de la vulgarisation scientifique, d'expliquer ces mécanismes si complexes, on est parfois amené à utiliser des termes un peu excessifs. Mais j'aime bien ce terme de troc, tout de même. Il traduit bien ce commerce qui s'établit entre cette communauté de champignons qui vit sur le système racinaire. Alors quand je dis champignons, il y a des cèpes, il y a des truffes, il y a des lactaires, il y a des cortinaires, il y a des chanterelles. Tous ces organismes, tous ces champignons qu'on peut ramasser en ce moment dans les forêts, bien sûr. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ces relations entre le réseau mycélien de ces champignons et la racine, et quel type de commerce va s'établir.
Alors, comme vous êtes tous les deux adeptes... oui, Gaspard Koenig, vous vouliez dire quelque chose, et ensuite on part à la cueillette.
Volontiers, mais je voulais juste rebondir sur ce terme de commerce, puisque évidemment, la relation entre les arbres suscite des métaphores politiques depuis longtemps. Kant prenait l'exemple des arbres qui se font la compétition pour la lumière, pour en faire finalement le symbole de la société, de l'insociable sociabilité des hommes, en disant, vous voyez, finalement, il y a des tensions perpétuelles, il y a une lutte perpétuelle, et c'est peut-être ça qui fait qu'on pousse droit, parce qu'un arbre laissé tout seul va pousser de manière un peu plus biscornue. Et puis, à l'inverse, les penseurs anarchistes de la fin du 19e, vous considérez que les relations symbiotiques, la coopération entre les plantes font que finalement on pourrait imaginer des sociétés humaines beaucoup plus harmonieuses, qui ne soient pas justement en lutte mais qui se rendent des services mutuels. Et c'est vrai que récemment on a parlé on semblait donner raison à cette école-là en parlant du Wood Wide Web et toute cette mode de considérer qu'il y avait vraiment un dialogue entre les arbres et presque des relations de parentèle, d'entraide, de soutien. Et moi, j'avais, quand je regardais ces sujets-là, j'avais vu dans le livre de Francis Martin que justement, les scientifiques aujourd'hui reviennent un peu sur cette histoire de générosité, disons, des arbres. Je crois que vous parlez dans votre livre d'un soliloque plutôt que d'un dialogue. Et donc, on revient, alors c'est un peu décevant presque, mais une solution d'un peu d'entre-deux où effectivement, il y a un troc, c'est-à-dire il y a un service intéressé. Il y a une sorte de mutualisme, quelque part, de mutualisme proudhonien. On donne, on reçoit, on tisse des interactions. Mais donc la manière dont on voit la forêt, c'est aussi reflète aussi la manière dont on fait société politiquement.
Oui, et ça reste quand même une sorte de microbiote hein, qui assure l'équilibre et la survie, une sorte de super organisme. On va en parler dans un instant. Mais comme je vous le disais, je vous propose de partir à la recherche de ces champignons. Francis Martin, donc adepte de la cueillette, direction les Vosges, pourquoi pas, précisément à. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Hein, Saulxures-sur-Moselotte.
Oui, oui, tout voilà, à fait.
Vous connaissez une commune de Moyenne.
Un joli endroit.
Voilà. Et avec comme guide un membre de la Société de mycologie, Patrice Baumgart.
Bon, je vais essayer de vous trouver des champignons, des comestibles, et puis on va en trouver des autres aussi. Hein. Mais pour faire un peu de cuisine, il faudrait trouver des champignons qu'on puisse manger. Quoi. Je vous emmène. Il faut prendre le couteau, parce que là, normalement, il est dans la terre, et on va le chercher comme ça. Voilà. On le décolle et on va le chercher comme ça. Il a cette couleur un peu bleu métallique. C'est vraiment beau, hein. C'est une magnifique espèce, qui n'est pas comestible, mais très jolie. Voilà. Donc celle-là, on ne la met pas dans le panier, là. Là, il y a des champignons, là. On va regarder ça de plus près. Alors, il faut les prendre. Alors, celui-là, moi, je le connais bien, mais il a des lames verdâtres. Et puis, surtout, ce qu'il faut faire, c'est... Bah, quand on a 30 secondes, hein, on le croque et il va être très amer. Alors, vous êtes obligé de recracher tellement c'est amer. C'est une amertume très violente. Hein. Donc c'est, et puis ça reste sur la langue un certain temps. Donc encore pour dire, il ne faut pas hésiter quelquefois à goûter le champignon et à le sentir. Hein. Bah, celui-là, il sent le champignon. Alors. Des fois, on trouve des... Ah, ben là, je crois que là, on a quelque chose pour mettre dans notre panier de comestibles. Donc c'est le cèpe de Bordeaux, hein. C'est Boletus edulis dans notre jargon. Et donc ce champignon est un comestible excellent qui est ramassé par beaucoup de gens. Bon ben voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui et j'espère qu'on pourra en faire quelque chose, qu'on va pouvoir les consommer et que ça va être très bon.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Reportage diffusé sur France 3 Grand Est le 16 octobre 2018. Alors, on les croque, bien évidemment, si on est sûr de soi et si on connaît le champignon quand même. Parce que parmi ces champignons, il y a ceux qui font du bien et aux environnements, aux écosystèmes ou tout simplement dans l'assiette. Et puis, il y a ceux qui restent mortels et pour les arbres aussi d'ailleurs. Francis Martin.
Alors, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que ce qu'on appelle champignon, c'est tout de même une toute petite partie de l'organisme. Mycète, le champignon, l'essentiel du champignon, il est souterrain, visible, c'est un réseau, un tapis de filaments qui peut représenter jusqu'à les 4/5 de la biomasse de ces organismes. Et puis, à l'automne, ou au printemps pour les morilles, mais à l'automne pour la plupart des champignons, ce réseau souterrain, suite à des processus qu'on comprend encore très mal. Bien sûr, il faut des précipitations, il faut souvent une vague de chaleur, il faut quelques nuits en dessous de 10 degrés. Il y a un processus qui se déclenche sur ce réseau, sur ce tapis mycélien, qui conduit à la formation d'embryons et qui vont former ces fameux champignons, souvent avec un pied et un chapeau. Et en fait, c'est l'appareil sexuel des champignons. C'est là où va se dérouler, souvent sous le chapeau, ou sur les lamelles pour les champignons à lamelles comme la manite, sur les tubes, pour les champignons comme les cèpes, c'est là que va se dérouler la reproduction sexuée, la production des gamètes, des semences de ces organismes qu'on appelle les champignons. L'ADN, le patrimoine génétique de ces organismes va être empaqueté dans des petites structures qu'on appelle les spores, extrêmement résistantes, et ces spores vont être disséminés par le vent pour éparpiller pour assurer la perpétuation de l'espèce. Donc en fait, ce qu'on mange quand on est ramasseur de champignons, il faut bien réaliser qu'on mange des sexes de champignons.
Et alors, quand vous parlez de ces tapis de filaments mycéliens, ça peut représenter des kilomètres. Je crois que vous avez, est-ce que c'est vous qui avez trouvé un spécimen de cèpe de 150 ans d'âge, je crois, trouvé dans les monts du Donon, c'est dans les Vosges.
Bah écoutez, tout près du Donon, on a effectivement fait un certain nombre d'expérimentations. On recense la biodiversité de ces champignons et on s'est interrogé sur l'âge de ces organismes souterrains qui forment en fait comme une colonie concentrique qui se développe d'à peu près 50 cm à 1 mètre par an, poussant sous vos pieds dans la forêt, colonisant petit à petit les différents arbres. Et on a découvert un bolet à chair jaune qui, lui, avait probablement 300 ans. Donc ça faisait 300 ans que ce champignon se développait sous nos pieds et produisait chaque automne des centaines, voire des milliers de fructifications. Donc oui, ce sont des organismes qui sont capables de vivre quasiment éternellement.
Gaspard Koenig, on ne marchera plus de la même façon dans les sous-bois, dorénavant.
Justement, je crois qu'il y a quelque chose de très important. Ce qui vient d'être dit, c'est que Francis Martin nous dit « on comprend mal ». Et effectivement, on connaît encore très très mal la nature et le sol en particulier. Le sol, on l'explore depuis à peine 2 siècles. C'est les débuts de la science du sol, de la pédologie. Auparavant, c'est pas tellement un objet ni scientifique ni philosophique. Et on connaît aujourd'hui, je cite Marc-André Solos, moi aussi, 1% des espèces vivant dans le sol. Dans une cuillère de sol, vous avez 10 milliards d'êtres vivants. Et on ne sait pas, on ne connaît pas encore, en fait, l'étendue de ces réseaux, de ces interactions. On ne peut pas encore les nommer tous. Quand je m'intéressais aux vers de terre là pour Humus, je crois qu'il y a aujourd'hui entre 3000 et 5000 espèces de vers de terre. La science en a décrit quelques dizaines, parce qu'il y a effectivement assez peu de géodrilologues qui sont les spécialistes des vers de terre. Donc c'est assez... dans une époque qui a l'impression d'avoir déjà tout connu, tout vu, tout vécu, qui sait aller dans l'espace, qui sait regarder les trous noirs, qui sait prévoir la météo, la température, etc. On s'aperçoit qu'en fait, il y a un univers énorme pour lequel la science en est à ses balbutiements, qui est sous nos pieds, qui représente en fait la biomasse la plus importante, c'est-à-dire que ce qui est sous la Terre pèse davantage que c'est au-dessus de la Terre, et la plus grosse partie de la biodiversité, elle n'est pas devant nous ni au-dessus de nous, elle est sous nos pieds. Et c'est vrai qu'on a peu regardé sous nos pieds. Dans le Théétète de Platon, à un moment donné, Socrate raconte l'histoire de Thalès, qui est astronome, évidemment, comme tous les philosophes grecs, qui regardent le ciel. Et donc, il regarde le ciel, et il marche dans un champ, et à force de regarder le ciel, il tombe dans un trou. Et là, il y a une servante thrace, une femme, peut-être, n'est-ce pas un hasard, plus proche du foyer, au sens étymologique du terme, qui lui dit « arrête un peu de regarder en l'air, regarde où tu mets les pieds ». Et le conseil de la servante thrace n'a pas été vraiment suivi jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, où Darwin écrit sur les vers de terre, où Élisée Reclus commence à parler de l'humus, où la pédologie devient une discipline scientifique. Et donc c'est assez excitant quelque part, mais en même temps, du coup, on en prend très peu soin, on ne connaît pas, oui. Et on martyrise et on appauvrit une matière qu'on est incapable de connaître et qui met énormément de temps à se renouveler. L'humus, c'est 1 centimètre par siècle, je crois. Et donc aujourd'hui, quand on détruit notre humus, et 60% des sols européens sont dégradés, il faut se rendre compte que quand on tombe sur la roche mère, et ben après, il faut attendre 1000 ans pour voir renaître un humus et une forêt primaire.
Francis Martin.
Un gramme de sol, il y a autant de microbes que d'étoiles dans notre galaxie. Donc il y a des milliards et des milliards de micro-organismes qui, dans un gramme de sol. Et on en connaît à peine 10%. Même dans nos forêts européennes, même dans nos forêts vosgiennes, il y a 1500 espèces de champignons dans ces forêts tempérées. On en a identifié les 2/3 quand même en Europe. On a de la chance, mais... Il n'y en a qu'une toute petite partie qui va fructifier. Il y a une partie importante de ces champignons, moisissures, levures, qui ne forment pas ces éléments macroscopiques visibles. Et donc ceux-là, ils sont passés sous les radars pendant des générations. Alors, heureusement, depuis 20 ans, on a les outils de la génétique moléculaire qui nous permettent, grâce aux empreintes génétiques, un peu les mêmes techniques que la police scientifique, on peut maintenant rentrer dans une forêt, quel que soit l'endroit de la planète, prélever 1 gramme de sol, extraire l'ADN qu'on appelle l'ADN environnemental, et grâce aux outils de la génétique, du séquençage massif, on peut identifier les organismes qui sont présents. On peut dire qui est là, où sont-ils. Ce qu'on sait encore très mal faire, c'est que font-ils, quelles fonctions ces micro-organismes remplissent. Mais déjà être capable de recenser ces micro-organismes, le microbiote du sol, et de suivre les fluctuations de ces communautés, à la fois suite à l'aménagement du gestionnaire forestier, mais aussi suite aux effets du changement climatique... Voilà, c'est quelque chose de relativement récent et d'extraordinaire.
Alors, parmi les gestionnaires, il y a ces vers de terre dont nous parlait Gaspard Koenig, mangeurs de terre, des terrassiers, des ingénieurs de nos écosystèmes. Avant d'en parler un peu plus longuement, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Normandie le 6 juin 2018. Mais vous y verrez le témoignage de deux jeunes, puisque au cœur de votre livre, Gaspard Koenig, il y a humus, mais il y a aussi cette jeune génération. Vous nous parlez des bifurqueurs aussi, vous nous parlez de ceux qui veulent faire autrement. Et bien là, vous allez découvrir Léo Massé et son ami Mario.
3 fois par semaine, Léo Massé emprunte ce triporteur électrique pour faire sa tournée. le fer de lance de Léo et de son compère, Marion.
On a pas mal de choses. Hein.
Ouais, il y a de quoi faire aujourd'hui.
La réduction des biodéchets. Chaque personne jette en moyenne 1 kg de détritus par jour. Alors la première action est de sauver ce qui peut encore l'être.
La plupart des choses qui sont jetées sont comestibles, au moins 75% je dirais. Et franchement, c'est dommage, quoi, parce que ça peut nourrir des tas de personnes, quoi.
Il confectionne donc jus, compotes et confitures qu'ils distribuent aux membres de leur association. Mais le cœur de leur activité se trouve dans ces boîtes.
Petit atelier de lombricompostage.
Oui, tout à fait.
Marion et Léo connaissent tout sur les vers de terre. Depuis bientôt 2 ans, ils s'adonnent à la lombriculture. Ils vendent des souches de lombrics et transmettent leur savoir dans le cadre d'ateliers gratuits.
Il faut mettre un petit peu plus de matière carbonée. C'est-à-dire les biodéchets bruns, durs et secs, le carton, les papiers.
L'objectif, changer les habitudes des citadins grâce au super pouvoir de ce mangeur de déchets.
C'est une espèce ingénieure, dans le sens où elle est capable de modifier les paysages. On s'en rend pas compte, mais la biomasse des vers de terre, c'est supérieur à la biomasse de l'ensemble des animaux à côté. Donc on les voit pas, ils sont dans le sol, mais ils font un travail incommensurable à l'échelle de la planète. C'est comme les abeilles, s'il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de nourriture sur Terre.
Gaspard Koenig, on a l'impression de plonger dans votre roman.
Oui,
hein. C'est presque Arthur et Kevin.
Complètement, oui. D'abord, ce qu'ils disent est complètement juste. C'est-à-dire que quand on comprend qu'on réalise matériellement ce qu'on a pu faire, d'ailleurs, à l'occasion de la grève des éboueurs il y a 2 ans à Paris, parce que les poubelles s'accumulaient, tout de suite, ça puait partout. Vous dites, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles? Mais il y a en fait de la nourriture. Et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas évacuer ces poubelles? Parce que les incinérateurs étaient bloqués. Et on en parlait aux infos. On dit, ah bon, mais alors donc on comprend mieux. Donc en fait, ces poubelles, avec toute cette matière organique, elles vont être brûlées. C'est totalement absurde, totalement absurde. Et évidemment, toute cette matière organique, elle quitte le cycle. Elle quitte le cycle, le cycle de la régénération. Alors que si vous la compostez, alors avec des vers de terre ou sans vers de terre d'ailleurs, vous en faites de la terre, il y a quelque chose d'assez incroyable aussi à réaliser, que tout ce qui est mort, parce que en fait, c'est nos déchets organiques, c'est aussi de la nécromasse, devient de la terre. Et qu'à l'inverse, la terre, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. C'est-à-dire que la terre, c'est le résidu de tout ce que les bactéries, les champignons qu'on vient d'évoquer, les collemboles, les vers de terre, les mycéliums, etc., ont digéré. Et en fait...
On
compostait, et cette terre, elle permet, elle détruit les cadavres, y compris les feuilles, y compris les épluchures, et elle les réduit, c'est comme elle redécompose le petit Lego de la vie, elle les réduit en petits éléments biogènes qui vont pouvoir repartir dans la chaîne trophique. Donc elle permet le temps sur Terre, parce que sans sol, eh bien, les cadavres s'accumuleraient et boucheraient l'horizon. Le sol permet aux nouvelles générations d'advenir, il permet le recyclage. Et effectivement, c'est cette notion que les deux jeunes soulignent, et dans ce recyclage, c'est vrai que les vers de terre sont les éléments les plus macroscopiques à leur propre échelle. Et c'est Darwin qui est le premier à découvrir, enfin en tout cas à formaliser scientifiquement en étudiant les vers de terre, en allant notamment visiter les ruines romaines au Royaume-Uni avec ses fils et en faisant des relevés très précis de turricules de vers de terre, donc ces petites mottes de terre que forment les vers en ramenant la terre des profondeurs jusqu'à la surface, que les vers de terre sont les laboureurs du sol. Et il le dit à la fin de son livre, ce sont les créatures les plus importantes dans l'évolution naturelle, parce que précisément, elles permettent cette régénération de l'ensemble des espèces. Et il se demande aussi, mais pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à les voir? Et il se dit, mais finalement, l'humanité trouve un peu humiliant d'accepter que des êtres aussi minuscules, aussi peu valorisables, aussi peu glorieux, puissent lui rendre un tel service. Et l'humanité n'aime pas l'idée que ce sont des millions de petites actions modestes et microscopiques.
Invisibles ou quasi.
Invisibles, qui finissent par avoir un effet positif, parce que nous aimons tellement le fiat, le grand homme, le dénouement, le spectaculaire en fait.
Et Hubert Reeves était cette autre porte-voix ces invisibles-là, de ce microscopique et du vivant, y compris des espèces malmenées, puisque il ne parlait pas de plantes invasives, mais non invitées.
Ce que je trouve passionnant dans ce processus de décomposition, qui est fondamental pour le fonctionnement de notre biosphère, c'est que c'est un vrai partenariat entre les insectes ou les éléments de la microfaune et de la mésofaune qui vont déchiqueter, grignoter les déchets, les bactéries et les champignons qui vont être capables de minéraliser, de décomposer grâce à leur système enzymatique ces morceaux de matière morte. Et les géants que sont dans le sol, oui, les vers de terre, vont malaxer tout ça, transformer. Et à la fin, on a l'humus, la fertilité, et ce sol extrêmement riche dans lequel les arbres, grâce à leurs partenaires fongiques, vont, oui, pouvoir aller puiser les éléments minéraux. Donc là aussi, on voit bien le partenariat entre les champignons qui vont être responsables de la décomposition, du recyclage de la nécromasse, de la matière morte. Et puis, une fois que le sol a été enrichi, ce seront encore d'autres champignons qui vont aider les racines des plantes à absorber ces éléments nutritifs. C'est remarquablement bien organisé.
Et les vers de terre, on estime qu'entre 40 et 600 tonnes de rejets sont excrétés chaque année pour un hectare, c'est ça, de sol. Par les vers de terre, ce qui est, mais c'est colossal. Oui,
colossal.
Alors on peut quand même ajouter, puisqu'on entendait ces jeunes gens et avec leur composteur à vers de terre, ça a encore du mal à passer quand même dans les cuisines ou peut-être plus des citadins, mais le compostage est aussi obligatoire, c'est-à-dire les villes sont censées mettre à, je crois, à moins de 150 mètres ou 200 mètres des habitations, un endroit où on dépose les matières justement organiques qui permettent de composter.
On peut dire que c'est pas encore dans les pratiques.
Hein. Non, mais c'est obligatoire.
Ouais. J'ai la chance de vivre dans un village, donc j'ai un jardin, et au fond du jardin, il y a plusieurs composteurs, et c'est vraiment une leçon de vie.
Le geste,
aller voir comment nos déchets se transforment jour après jour, comment les odeurs, comme Gaspard disait, sont émises par un composteur, c'est tout à fait intéressant.
Et vous parlez des odeurs, Francis Martin, ce sont là aussi des communications qui se font par les odeurs, hein, des odeurs qui protègent, qui alertent, qui repoussent, il y a des interconnexions olfactives.
Oui, tout à fait. Les arbres, d'abord l'arbre lui-même, quand vous regardez ces géants que sont de vieux chênes ou de vieux hêtres ou de vieux sapins ou épicéas, je me suis toujours demandé, enfin quand j'étais étudiant en tout cas, je me demandais, mais comment les feuilles peuvent-elles coordonner leurs activités avec les pointes racinaires qui absorbent les éléments nutritifs et qui sont situés 20, 30, 40 mètres plus bas. Quels sont les processus et les mécanismes biochimiques, moléculaires qui permettent cette extraordinaire coordination entre tous les organes de l'arbre, entre les différentes feuilles, déjà du houppier, il y a quand même sur un chêne, il peut avoir un vieux chêne, il a 700 000 feuilles, donc c'est une armée, un essaim de feuilles. Comment ces organismes, comment ces feuilles sont-elles capables de coordonner leurs activités?
Et les différentes racines, parce qu'il y a racines et racines.
Oui, c'est ça. Après, il y a les racines charpentières, et puis il y a toutes ces petites racines courtes, les radicelles qui vont absorber les éléments nutritifs. Et en fait, on s'est aperçu que les plantes, les arbres, avaient un certain nombre de systèmes de communication. D'abord, ils font passer, comme nous, dans leurs humeurs, dans leurs vaisseaux conducteurs, dans la sève élaborée, dans la sève brute, ils font passer un certain nombre de molécules, des hormones en particulier, qui leur permettent, comme entre nos organes, de coordonner leurs activités. Puis on s'est aperçu un peu plus tard que ces plantes étaient capables de produire des composés volatiles. Et en particulier, quand une plante est agressée, quand une feuille est grignotée par une chenille ou par un autre insecte, eh bien, en quelques secondes, la blessure que provoque la morsure ou la piqûre va induire toute une cascade d'événements moléculaires qui fait intervenir des centaines, voire des milliers de gènes et qui vont conduire à la mise en place de réactions de défense. Donc ces gaz sont produits comme des éléments d'alerte, comme des signaux qui permettent à l'arbre de s'informer de la présence d'agresseurs et d'intrus. Et ces gaz, ça peut être l'éthylène, ça peut être l'acide jasmonique, il y en a d'autres, mais ce sont des molécules qui vont coordonner les réactions de défense au sein de l'arbre.
Vous avez tous les deux un auteur en partage. Je vous propose d'écouter sa voix avant d'aller un petit peu plus loin, parce que lui aussi a arpenté les sous-bois, a dû se coucher sur les mousses, hein, comme vous le faites et l'un et l'autre, s'immerger dans ces écosystèmes.
Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite de souvenirs de mes lectures, de souvenirs littéraires. Lorsque pendant la semaine et pendant tout le temps de mon travail, j'avais lu l'Odyssée. Évidemment, il n'y a pas la mer à Manosque, mais il y avait les collines. Et au-delà de ces collines, un horizon suffisamment bleu pour que je puisse imaginer, étant enfant, qu'au-delà de ces collines se trouvait la mer, comme elle s'y trouve en effet, mais on ne la voit pas. J'allais par conséquent à la recherche des paysages dans lesquels se passaient les drames des personnages qui m'avaient intéressé pendant le courant de la semaine ou pendant le courant du mois. Lorsque je marchais dans un verger d'olivier, Pan était là, Apollon surgissait des herbes. Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs. Et Ulysse était peut-être dans ses petits villages posés sur le sommet des collines, en train de manger chez Alcinoos, n'est-ce pas? Tout ça a été mêlé. Je ne crois pas qu'un jour j'ai pu me promener dans un manosque qui était manosque. C'était un manosque qui était à la fois tout ce qu'on pouvait imaginer.
Vous l'aviez reconnu à tous les deux. Jean Giono, qui s'exprimait le 14 septembre 1965 sur France Culture dans l'émission « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée ». Ce Jean Giono en partage fabuleux. Hein. Il faut signaler qu'il a écrit un livre « L'homme qui plantait des arbres », un livre paru en 1953. Gaspard Koenig.
Oui, là, il pense sans doute plutôt à la naissance de l'Odyssée, mais il faut vraiment se méfier avec Giono parce qu'il invente en permanence tout, y compris sa propre histoire. Mais
son amour de la nature et des arbres, il l'a pas inventé.
Non, bien sûr, non. C'est une écriture. D'abord, c'est une écriture qui est incroyablement moderne. Moi, je suis toujours, je suis presque découragé en fait quand je lis des livres de Giono parce que je me dis j'y arriverai jamais. Récemment, j'ai relu Deux cavaliers de l'orage et il parle de la pluie et sans faire de métaphore très longue, il dit juste ce rideau de fer. Et je me dis, mais oui, effectivement, la pluie, c'est un rideau de fer, mais comment il a pensé à ça? Enfin, c'était toujours des métaphores extrêmement justes et très, très rapides, qui s'éternisent pas et qui ensuite, en plus, sont mêlées dans le flux de l'histoire. C'est un auteur qui, Avant-guerre est un peu un auteur poétique, un auteur de la nature, mais qui, après-guerre, devient vraiment un auteur des hommes et de la métaphysique et de la noirceur aussi de l'âme humaine. Donc c'est pas idyllique, Giono. C'est souvent très cruel parce que aussi il a vécu des choses très dures pendant la guerre et que ça l'a fait changer sa perception des êtres.
Francis Martin.
Le Chant du Monde est probablement un de mes livres préférés et Giono est l'un de mes écrivains préférés. Il m'a aidé en fait quand j'ai décidé d'écrire autre chose que des articles scientifiques en anglais, extrêmement courts, extrêmement brefs, il m'a aidé en fait à donner une vision plus littéraire et plus esthétique, panthéiste de la forêt. Et quand je me promène dans une forêt maintenant, j'ai ma vision de scientifique et se superpose la vision de Giono. C'est stupéfiant.
Et Humus de Gaspard Koenig aussi.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Soft green grass paves the way into the forest, where she waits with a smile and kindly invites you in. Soft and clear is her voice when she says only summer knows what I've planted in my garden and the beauty that grows. Oh, as I stumble inside the branches of the forest, I come in alive. Have you ever been in darkness, she asks, did you ever lose your mind? Have you sailed the mighty ocean till the end of time? She sees your fears and she knows, won't take your cries and woes. With a smile on her face, come back another day. I stumble outside the branches of the forest, I come in alive.
C'était Forest de Ibadé Ramadani et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. De l'humus à la cime des arbres, c'est un monde de connexion et d'intelligences invisibles qui s'offre à nous, à condition d'écouter, de sentir, de regarder et de s'immerger dans ces écosystèmes forestiers qui sont, faut-il le rappeler, une assurance vie pour l'humanité. À l'occasion de la fête de la science et en compagnie de nos deux invités, Francis Martin, directeur de recherche émérite à l'INRAE et auteur notamment de La forêt hyper connectée et aussi le beau livre Arbres, secrets de géants, des livres parus à la Salamandre, et avec Gaspard Koenig, philosophe et essayiste français, auteur de Humus et du livre aussi Agrophilosophie, paru aux éditions de l'Observatoire. Et bien ensemble, nous déambulons dans ce monde interconnecté, aujourd'hui soumis aussi aux effets du réchauffement climatique et aux ravageurs.
La forêt de Compiègne, dans l'Oise. Les techniciens de l'ONF ici font face à une autre prolifération d'insectes. Le hanneton, dont les larves dévorent les racines d'arbres.
Voilà, là, il n'y a plus de racines.
Un insecte ravageur, comme une double peine pour cette forêt déjà très affaiblie par la sécheresse.
Clairement, on peut parler de crise sanitaire en forêt de Compiègne, mais pas seulement. Il y a également la forêt de l'Aigle, il y a la forêt de Chantilly. Et on a un continuum là sur le sud de l'Oise, où les sols sont sableux, avec 25 000, 30 000 hectares de forêt sous forte contrainte climatique, avec en plus la présence de hanneton.
Conséquence d'un déficit pluviométrique croissant, 30% de la forêt de Compiègne serait en fort dépérissement. Et si par des coupes sanitaires, ici et ailleurs, l'Office national des forêts tente de sauver une partie de la valeur des bois, il paraît impuissant face à l'accélération et l'ampleur des phénomènes.
Il y a certainement des choses à inventer en termes de mélange feuillus résineux pour l'avenir. Et puis des provenances un peu plus méditerranéennes. Tout ça, il va falloir le tester.
Retour dans le nord. Dans la forêt de Saint-Amand-les-Eaux, des frênes malades sont abattues, des hêtres bicentenaires qui, depuis plus de 10 ans, souffrent du manque d'eau et se dessèchent.
On va venir ici planter probablement du chêne sessile et on aura donc en mélange effectivement un peu d'épicéa ou un peu d'érable sycomore. Il y a quelques semis aussi d'érable sycomore, ce qui permettra donc d'avoir une forêt diversifiée pour demain. Ça sera pour les futures générations.
Reportage diffusé sur France 3 Hauts-de-France le 28 septembre 2019. État de nos forêts et de nos bois, Francis Martin. Là, on entendait des différentes espèces mentionnées. Toujours des très beaux arbres magnifiques. Quand on entend leur nom, on les voit. Mais c'est vrai que l'état des lieux n'est pas formidable.
Non, la forêt française était en bonne santé jusqu'à tout récemment. On se réjouissait de voir la surface forestière s'accroître en permanence. La quantité de bois sur pied, d'arbres vivants, avait quasiment doublé en 20 ans. Donc tous les signaux étaient plutôt ouverts. On était assez optimistes, nous autres chercheurs forestiers ou les gestionnaires forestiers. Et puis on a connu cette succession extraordinaire de sécheresse en 2018, en 2019, en 2020, en 2022. Et là, on a eu un climat quasiment méditerranéen dans le nord de l'Île-de-France, par exemple. On parlait de Compiègne, Chantilly, etc. Ces chênes ont vécu pendant quelques années un climat semi-aride. Et bien entendu, ces arbres, comme le hêtre, comme le chêne, qui sont des espèces plutôt de climat océanique, ou en tout cas frais, humide, ont considérablement souffert.
Ils donc, résistent à une sécheresse, deux sécheresses, mais au-delà, c'est du stress hydrique.
Ça affaiblit. Et puis, quand les arbres sont affaiblis, c'est un peu comme les humains, en fait. Les arbres ont un système immunitaire, un système de défense extrêmement perfectionné. Mais quand les individus sont affaiblis, le système de défense est moins efficace. Et à ce moment-là, tous les insectes parasites qui sont normalement présents dans les écosystèmes, les scolytes, ces petits scarabées qui vont grignoter les vaisseaux conducteurs des arbres, les hannetons qui vont se réjouir de toutes ces petites racines bien chenues et grasses, vont proliférer. Et les arbres, ça amplifie en fait le phénomène de dépérissement. Et donc aujourd'hui, on observe quasiment dans tous les massifs forestiers à travers le pays, que ce soit les sapinières vosgiennes, que ce soit les hêtres dans le Jura ou dans les Pyrénées, que ce soit les pinèdes dans les Alpes, que ce soit les chênes de l'Oise, des dépérissements massifs. Certains chiffres font peur parce qu'en fait, les recensements qui sont effectués par l'Institut géographique national et forestier, qui est chargé chaque année de faire un bilan de l'état de santé des forêts, avec d'autres services du ministère, on arrive à des chiffres dans certaines régions de 15% des arbres qui sont malades. Alors, c'est surtout les épicéas de plaine qui sont condamnés, ils ont quasiment disparu. C'est les châtaigniers en Ardèche et en Corse. Et puis, on a mentionné le frêne. Oui. Alors là, le frêne, lui, il souffre d'une autre maladie. Il est attaqué par un champignon exotique. C'est une maladie émergente, un résultat de la mondialisation. Un champignon qui vient de Mandchourie, qui contaminait les frênes, qui était importé, en fait, en Europe, avec des frênes de Mandchourie, et qui a contaminé les frênes européens, et ces frênes sont condamnés. 95% des frênes vont probablement disparaître de nos paysages. Au siècle dernier, c'est les ormes qui ont disparu suite à la graphiose de l'orme, pareil, maladie cryptogamique, fongique. Et donc, les arbres aujourd'hui, les massifs forestiers, sont soumis à des pressions considérables. Bien sûr, il y a encore les activités humaines. Il ne faut pas oublier quand même que le premier facteur qui conduit à la disparition des forêts ou à la perte, ça reste la fragmentation du paysage, l'exploitation qui peut être parfois excessive, la multiplication des plateformes logistiques, l'extension des villes.
Les monocultures replantées.
Le changement climatique a un effet très fort. Et c'est vrai qu'en cours cette année, on a eu des années, des périodes très sèches.
Et les arbres déforestation, méga-feu, enfin c'est vrai.
On va pas être catastrophiste, hein.
Non, mais
ont une capacité incroyable de résilience et de résistance. Okay. Donc je pense que beaucoup de ces arbres vont résister, mais si ces sécheresses se répètent trop fréquemment, c'est pas impossible que nos paysages forestiers changent considérablement dans les 50 prochaines années.
Et vous dites que les forêts deviennent plus silencieuses, vous l'avez repéré?
Oui, parce qu'en fait, alors peut-être moins dans les forêts que dans les prairies et dans les autres partie de nos territoires. Dans les forêts, on pense qu'il y a la plupart des oiseaux forestiers, la plupart des insectes forestiers ont survécu, même si on observe des chutes de l'ordre de 5, 10, 15%. Les chiffres sont pas toujours d'accord. Mais alors, dans les prairies et dans les agro-systèmes, c'est 90% des insectes qui ont disparu et les oiseaux. De ce fait, les populations d'oiseaux sont fortement affaiblies. Donc oui, il y a une prise de conscience à voir aujourd'hui, il faut faire très attention à notre avenir.
Avec des alerteurs qui remontent aux années 60, hein, Gaspard Koenig, on pense forcément à Rachel Carson avec son Printemps silencieux en 1962. Vous mentionnez aussi de temps en temps une phrase du président Roosevelt après le Dust Bowl. Ouais. Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Le Dust Bowl, c'était une série de gigantesques tempêtes de poussière qui étaient survenues dans les années 30 aux États-Unis. Dites-nous, peut-être vous avez envie de réagir par rapport à ces prises de conscience. Dans votre roman Humus, vous mettez en scène les bifurqueurs et aussi ces façons d'être en résistance civile aujourd'hui. Comment vous voyez les choses?
D'abord, il faut le sentir dans sa chair et je trouve que ça doit faire mal et ça doit nous blesser en fait de voir ces paysages quand on les connaît un peu se dégrader. Moi, je vais tous les ans depuis 20 ans dans un village des Carpates où vit ma belle-mère en Roumanie. Et la maison est vraiment tout en haut du village, donc à l'entrée de la forêt, qui est une forêt d'épineux. Et quand on est là-bas, on a vraiment l'impression d'être dans un refuge hors du monde, où rien ne pourra jamais arriver, où tout est éternel. Cet été, quand j'y étais, je suis aperçu qu'il y avait dans la forêt des grosses taches rousses. Et puis, en fait, j'ai compris que ces taches rousses, c'était le fameux scolite typographe. Alors, qui nous laisse comme seule consolation, on l'appelle typographe parce que pour un écrivain c'est amusant puisque sur les branches qui tombent, qui sont séchées, il y a des espèces de marques, enfin sur l'écorce plutôt, de marques typographiques comme des lettres et on voit ça, on se dit ah bah tiens quelqu'un m'a envoyé un signal, bah en fait oui c'est un signal, c'est un signal que la planète se réchauffe et que donc ce genre de
que les ravageurs sont au travail,
peut pulluler et ça blesse. Je me rappelle Arne Naess qui est le fondateur de l'écologie profonde, il dit ça, il dit qu'on connaît un paysage et qu'il y a une partie qui s'en va parce que il y a une source qui est tarie ou parce que alors ça a toujours arrivé bien sûr dans la nature, mais là on sait d'où ça vient et on sait que c'est notre action qui l'a provoqué, mais on perd une partie de soi. Et quand on est spinoziste comme Arne Naess, on fait partie d'un, on est aussi en symbiose avec cet environnement qu'on connaît. Et c'est important de ressentir cette douleur, en fait, parce que c'est ça qui, je pense, nous motive, en fait, pour comprendre et pour agir. Je pense qu'il est assez dangereux d'en rester une analyse purement chiffrée de combien de tonnes de carbone, de combien il faut décarboner, à quel numéro de degré de 1,67, etc. Il faut arriver, il faut aussi le sentir dans sa chair, parce qu'on se met en fait à se comporter différemment. On se dit, mais c'est tellement grave que non, je vais vraiment pas prendre l'avion. Ça devient quelque chose en fait assez naturel, et c'est plus du tout perçu comme on le sent plus du tout comme un sacrifice. Et s'agissant des jeunes générations que je mets en scène dans mon livre, il faut quand même préciser que, oui, il y a ces bifurqueurs, souvent assez éduqués quand même, et dans les grandes écoles, en l'occurrence AgroParisTech. J'y suis retourné récemment.
Sur le plateau de Saclay.
J'y suis retourné récemment, il y en a toujours la même population, avec toujours des jeunes, pas tous, mais beaucoup, très motivés, très engagés, et c'est formidable. Mais il ne faut pas penser que, de manière complètement naturelle, les nouvelles générations deviennent plus écolo, plus conscientes. On s'aperçoit qu'en fait, les jeunes sont ceux qui prennent de 16 à 25 ans, ceux qui prennent le plus l'avion, ceux qui font le plus de fast fashion. Et pour faire un certain nombre d'interventions en lycée, encore hier, je m'aperçois que le message n'est pas du tout évident et qu'il y a même d'ailleurs une sorte d'effet de mode qui fait que l'écologie, c'était sympa, c'était les années Greta, c'était marche pour le climat, mais ça, c'est déjà les grands frères ou les grandes sœurs. Et que maintenant, on est passé à autre chose. Et que ça...
À la technologie qui va nous sauver ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que pensez-vous de la puce de Elon Musk qu'on va nous mettre dans le cerveau ? Donc, on voit que l'imaginaire, il est aussi fabriqué. Et qu'aujourd'hui, il y a deux imaginaires en lutte, à tout le moins. Mais en tout cas, la partie n'est pas du tout gagnée parce que les jeunes seraient plus jeunes et que naturellement, ils deviendraient vertueux.
Quoi. Alors, avant de vous donner la parole, Francis Martin, je vous propose d'écouter ce reportage qui a été tourné à Caen par France 3 Normandie et diffusé le 25 février 2021. Vous allez voir, il s'agit justement de ces façons aussi d'entrer en résistance quelque part et en lutte. Et il y a un petit message aussi pour le monde politique.
De nombreux habitants n'en reviennent toujours pas. La place avec ses tilleuls plantés après la Seconde Guerre mondiale a maintenant des allures de terrain vague. Alors près de 250 personnes se sont mobilisées pour dénoncer l'ordre donné hier par le maire de Caen, Joël Bruno, de scier ses 45 tilleuls de la place de la République au petit matin à la surprise générale.
Cette décision catastrophique est absolument irréversible. Et elle illustre la manière dont ce maire qui a été élu avec moins de 20% des électeurs inscrits conçoit aussi bien la démocratie, la politique de la ville que l'intérêt général.
Dans les rangs, des élus d'opposition bien décidés à porter le fer judiciaire.
Non, il ne nous démobilisera pas, parce qu'on va continuer à mener les recours devant la juridiction administrative pour rechercher la responsabilité de la ville et de l'État dans ce dossier, parce qu'on va continuer à se battre contre le projet de centre commercial et de privatisation de la place publique.
Et puis dans les rangs, des associations, mais aussi de simples citoyens.
Le centre-ville est en train de mourir. Ils veulent installer un nouveau centre commercial alors qu'on en a déjà installé un il y a quelques années qui ne fonctionne pas. Là, on vit une crise écologique pas possible et on se permet d'abattre des arbres sans le consentement des citoyens cannais.
Pour lui, c'était une nécessité puisqu'il avait lancé l'idée. Et puis ce sont les copains. Hein, les copains. Le printemps, c'est Delca. Bon, on était un bon groupe. Hein. On a obtenu plus de 5000 signatures. Hein. Ça ne servait à rien.
Francis Martin, une réaction peut-être.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, les forêts vont changer. Alors bien sûr, il faut les conserver. Il nous reste quelques magnifiques massifs forestiers. Il faut être vigilant et éviter qu'ils soient détériorés, déforestés, coupés. Donc là, on a tous les citoyens ont un rôle d'être vigilants et de lutter contre ces déforestations parfois massives, de certains industriels exploitants forestiers. Ce que je voulais dire aussi, quand même, faut que nos éditeurs réalisent que les forêts ne vont pas disparaître. Les forêts, depuis 300 millions d'années qu'elles existent, elles en ont subi des changements climatiques, certains colossaux. Donc en fait, les forêts vont pas disparaître, mais elles vont changer. Donc effectivement, depuis nos fenêtres, dans nos villages, on va voir les paysages forestiers se modifier petit à petit. Les hêtres vont peut-être disparaître, certains types de chênes vont peut-être disparaître, mais il y a d'autres espèces qui vont venir du sud. Les arbres ont toujours joué ce yo-yo, ont toujours été des migrants climatiques.
À condition de favoriser la diversité.
Bien sûr, il faut conserver cette diversité, il faut être vigilant, il faut favoriser une forêt diverse, avec des arbres d'âge différents, avec des densités plus faibles. Mais si les chênes et les hêtres venaient à disparaître de nos forêts du nord de la France, de l'Oise par exemple, ils seront remplacés par d'autres espèces.
Préserver peut-être les dernières forêts primaires et ensauvager, favoriser les forêts en libre évolution. Vous avez aussi des coups de cœur pour la forêt d'Irati ou la Massane, cette réserve naturelle des Pyrénées-Orientales. Dans ce reportage, on sent, ou est-ce que vous avez aussi ce sentiment, Francis Martin, de deux mondes peut-être. Il y a le monde de ceux qui peuvent bénéficier de ces grands espaces-là, de ce rapport à la nature dont nous faisons partie. Et puis d'un autre côté, la ville, voit aussi des engagements citoyens pour essayer de préserver les arbres en ville. C'est vrai que les arbres en ville, pour vous, Francis Martin, c'est pas une forêt, mais en même temps, quand on parle d'éducation, de revenir justement à ces principes, de se reconnecter aux forêts, à la nature,
bien entendu,
ça passe par là aussi.
Je préfère avoir une place couverte de platanes, même au cœur de Paris, plutôt qu'une place entièrement bétonnée. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que ces arbres en ville sont des malheureux. Ils sont en prison, ils sont maltraités. Même si on fait beaucoup de projets, beaucoup d'efforts aujourd'hui pour essayer de leur rendre la vie un peu plus agréable, parce qu'il va falloir verdir nos villes de façon importante. Si on
veut
a 45
lutter,
ou 50 degrés dans les rues de Paris, il va falloir faire quelque chose. Mmh. Mais c'est certain que l'étudiant en classe préparatoire qui est dans un grand lycée parisien, il n'a pas la même vision de la nature et de la forêt et de l'environnement qu'à un élève de classe préparatoire à Nancy. Ceux que je rencontre quand je fais des conférences aux classes prépa de Nancy, ils sont à 10 minutes de grands massifs forestiers, donc ils ont cette habitude, ils vivent souvent dans les villages qui sont autour de Nancy, donc ils ont encore ce contact avec la nature et ce sont de fervents défenseurs. Ils me disent souvent, mais Francis, pourquoi vous n'êtes pas sur les barricades à défendre les forêts? Alors je lui dis, mais attendez, moi je suis scientifique, je dois faire un diagnostic, j'essaye d'informer.
De donner à comprendre aux décideurs.
Et en même temps les décideurs, mais je dois surtout pas m'écarter de cette ligne délicate de crête qui est d'informer la société, mais ne pas prendre parti.
Gaspard Koenig, il faut engager une véritable éducation quand même à la nature pour fournir des outils justement de résistance politique. Je me tourne vers vous par rapport à ça, puisque vous parlez de ces révolutions possibles, de cette façon d'entrer peut-être en agro-anarchisme. Je vous cite, vous dites « Cultiver son jardin », ça c'est dans la conclusion du livre « Agrophilosophie ».« Cultiver son jardin », c'est aussi cultiver notre jardin commun. Partout où l'on peut planter quelques graines d'agro-anarchisme, dans un dîner amical comme dans un programme ministériel, faisons-le. Ces idées vagabondes finiront peut-être par coloniser un milieu aujourd'hui hostile. Semons, c'est ça le message que vous nous donnez, semons les idées comme on sème des graines au gré du vent et des rencontres.
Semons les idées et surtout promenons-nous dans les bois, comme dit la comptine, parce que c'est Élisée Reclus qui, et ça c'est très politique justement, qui était juste un anarchiste et un géographe et un très grand styliste, un très grand promeneur aussi, qui disait, après 10 mois d'éducation républicaine, les cerveaux sont complètement mis en vrac. Et heureusement, nos enfants ont 2 mois, parce qu'à l'époque, on retournait quand même très souvent à la campagne, pour repartir dans les forêts et courir le long des ruisseaux et dans les prairies. Et ça leur redonne le goût de la liberté. Et il associe ce qu'il appelle d'ailleurs le sentiment de nature avec quelque chose de plus politique qui est la capacité de désobéissance civile, en fait, que Thoreau lui-même forge au contact justement de la nature sauvage, des myrtilles sauvages, des pommiers sauvages. Alors il y a plus grand chose de sauvage dans nos forêts, il y a très peu de pommiers sauvages et puis il y a plus de forêts primaires en Europe, hormis un peu dans les Carpates ou en Pologne. Mais c'est pas grave parce que un écosystème qui naît, même si c'est l'homme qui l'a aménagé ou qui l'a laissé venir, il est quand même incroyablement spontané. Et encore une fois, on connaît à peine les processus qu'il met en œuvre pour advenir. Et c'est ça qu'on ressent quand on s'y promène. C'est cette incroyable complexité. Et c'est cette complexité qui nous donne la sensation de la liberté. Et donc, on pourra faire tous les programmes qu'on veut si on ne ressent pas ça, simplement en allant divaguer. Et divaguer, c'est pas suivre les voies vertes, parce qu'on a l'impression que maintenant les espaces naturels sont segmentés, normés, qui fait qu'on se promène sur une voie verte comme on se promènerait en fait sur un trottoir de ville. Il faut vraiment prendre les chemins de traverse autant qu'on peut.
Alors, en 10 secondes, Francis Martin, si à l'issue de l'émission vous deviez emmener Gaspard Koenig partager une sortie en forêt, ce serait où ?
Probablement autour du lac de Pierre-Percé, dans le massif du Donon, où il y a ces forêts extrêmement diversifiées, à la fois de feuillus et de conifères. C'est le meilleur moment, et il y a beaucoup de champignons.
Rendez-vous pris, merci à tous les deux. Francis Martin a dégusté justement la forêt hyper connectée, et le très beau livre « Arbre, secret de géant », édité à la Salamandre, et puis on peut mentionner « L'Arbre Monde » paru chez Belin, Gaspard Koenig. Il faut plonger absolument dans Humus, un roman que l'on ne lâche pas. Et « Agrophilosophie », bien sûr, les deux parus aux éditions de l'Observatoire. Et puis allez, spéciale dédicace à Michèle Bidot van Tongeren, ancienne directrice des archives de Radio France, amoureuse du vivant et des merveilles de la nature. Toutes les infos, comme d'habitude, sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et puis bien, à vous les sous-bois.